est 1h du matin.
Ouais. Donc, moi aussi.
On n'est pas bougé. Voilà.
Donc, on vous propose d'écouter nos d'ailleurs foules et faites-le vous-même. Ils vont nous parler des jeux, des plateaux de jeux à faire soi-même, et puis de l'actualité des jeux à faire soi-même. Et puis, on vous reprend tout de suite après. Il y en a pour une vingtaine, 20, 25 minutes. Et puis, on vous reprend tout de suite après pour passer en revue assez rapidement quelques
jeux. Les
jeux
du moment.
Oui, les jeux du moment. Et puis clore ce podcast qui sera certainement le plus long podcast. Ouais, Florent écarte les bras. Bravo. On n'est pas couché.
Le défi est relevé, venez.
Il arrive avec son gros marteau. C'est la rubrique d'Ultra Lord.
Bonjour les makers, bonjour les makeuses et bonjour Guilin.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour la quatrième chronique Do It Yourself sur Proxy Jeux et nous allons commencer par la réalisation de plateaux. La première étape pour réaliser des plateaux va être de découper les plaques dont vous allez vous servir, donc que ce soit en carton ou en lino, plutôt en carton puisque lino a tendance à gondoler. Une fois que vous avez découpé vos plateaux, il va falloir réaliser les charnières. Alors pour les charnières, en fait, la technique est extrêmement simple. Il va falloir que vous colliez, donc avec un grand scotch, les deux plateaux l'un côté de l'autre. Et le principe pour pouvoir plier le plateau en entier s'il y a plus de deux morceaux, c'est de faire une charnière d'un côté puis de l'autre. Donc on mettra des photos sur le blog. Et du coup, comme ça, bon, vous pouvez bien plier de chaque côté.
C'est ça. Alors après, avant de coller le papier que vous auriez bien sûr imprimé auparavant, vous pouvez faire ce que j'appelle la plastification monoface. Donc l'idée en gros c'est d'arriver à plastifier votre feuille pour qu'elle soit plastifiée que du côté visible, on va dire, et que le dos de la feuille lui ne soit pas plastifié. Pourquoi ? Parce que la colle n'adhère pas bien sur le plastique. Donc, le principe, l'astuce pour faire ça, c'est que dans une pochette de plastification, vous glissez deux feuilles dos à dos, vous passez dans la plastifieuse, et ensuite vous découpez la marge extérieure. Et du coup, vos deux feuilles, évidemment, ne sont pas collées entre elles, et donc vous vous retrouvez avec des feuilles qui ne sont plastifiées que d'un côté.
Et donc, si vous préférez la méthode classique, ben, vous imprimez simplement votre feuille de papier et puis vous en collez ça au pinceau, enfin comme on avait vu pour l'épisode des tuiles, tout simplement.
Alors la petite astuce, comme là on va travailler avec des grandes surfaces à coller, la petite difficulté, c'est pour aligner correctement vos images. Alors moi, ce que je conseille de faire quand vous utilisez une colle au pinceau, c'est d'en coller juste un coin de votre support carton, on va dire, puis de présenter votre feuille de papier mais sans l'appliquer du côté collé. Vous l'alignez bien, là vous appliquez le côté collé, vous attendez un petit peu que ça sèche, 30 secondes, puis vous allez soulever la partie qui n'est pas collée, badigeonner de colle et puis ensuite vous finissez votre encollage toujours en essayant d'éviter les bulles.
Voilà, et c'est donc le gros avantage d'utiliser la colle en pinceau quand on fait des plateaux ou des grandes surfaces, c'est qu'on peut prépositionner la feuille comme on veut, la fixer avec un point de colle sur un coin de la feuille, et puis ensuite pouvoir en coller le reste tranquillement. Parce que sur la réalisation de plateau, on réalise d'abord le plateau sans avoir collé les images dessus, et ensuite on applique le dessin. Et puis donc la dernière étape va être de découper les bords pour avoir un plateau qui soit parfait. Donc bah, tout simplement au cutter, éventuellement pré-découpé au scalpel une première fois pour pas déchirer le papier, comme pour les tuiles. Donc ça c'est la méthode classique. Si vous voulez un matériel qui soit tout fin, pour vraiment être dans la mode du matériel minimaliste qu'il y a en ce moment, vous pouvez faire des plateaux plastifiés. Donc vous plastifiez normalement recto verso, vous découpez à la taille du dessin, et puis bah, vous pouvez mettre du scotch éventuellement même sans faire le principe de charnière d'un côté et de l'autre, puisque le matériel étant très fin, du coup ça supporte très bien que vous mettiez du scotch uniquement sur le dos des plateaux. Et puis la deuxième technique, c'est la réutilisation des plateaux existants.
Et oui, parce que bah, vous avez dans vos étagères tout un tas de jeux de société avec des très jolis plateaux qui sont parfois double face, mais c'est quand même assez rare. Et d'ailleurs, parmi ces jeux, il y en a beaucoup qui ont des extensions, en particulier les Aventuriers du Rail. Il y a une quantité astronomique d'extensions fan qui sont disponibles sur le net. Et du coup, bah, évidemment, le meilleur matériau pour faire un plateau de jeu, c'est un plateau de jeu. Vous le retournez face cachée et vous collez derrière. Alors là, on n'a pas vraiment droit à l'erreur parce qu'on ne peut pas se permettre de dire bah, « je le jette à la poubelle si ça ne va pas ». Mais ça permet de faire un plateau de jeu qui va très très bien.
Et puis la petite astuce du trou à rat, c'est bah, à Essen, mais j'imagine pas que à Essen, sur les stands de jeux d'occasion, y en a certains qui vendent des plateaux tout seuls. Donc c'est généralement ça coûte pas cher, moins d'un euro le plateau. Et du coup, là vous avez du matériel déjà de qualité professionnelle que vous pouvez réutiliser tranquillement pour faire vos jeux.
Et d'ailleurs, sachez que les boutiques dont on vous parle tout le temps, qui sont spécialisées dans le matériel pour le jeu et qui vous vendent les cubes, les dés, etc., il y a une certaine partie de ces boutiques-là qui vendent des plateaux de jeu vierges et qui vous vendent avec les feuilles autocollantes à passer dans l'imprimante. Et donc là, c'est la partie ultra facile. Vous avez votre plateau vierge, vous passez votre feuille à l'imprimante, hop, vous enlevez le petit dos plastifié, vous collez, c'est fini. Ça, c'est la méthode qui vous permet d'avoir des très jolis plateaux, évidemment, qui va coûter un petit peu plus.
Moi, c'est ce que j'avais fait sur une version de Marrakech que je m'étais faite. Et l'avantage, c'est qu'effectivement, le papier étiquette a tendance à bien coller. Alors, le problème même, c'est qu'il a tendance parfois à trop coller et qu'on n'a pas beaucoup le droit à l'erreur. Alors qu'en comparaison, mon Agora, qui n'était pas terminé, vient de rejoindre la poubelle car la colle ne tenait pas sur le lino. Et du coup, j'ai tout jeté parce que ça tenait pas. Et donc, ce qui permet de faire une transition, parce qu'on nous a posé une petite question sur le blog Proxy Jeux. Donc, c'est Jocelyn qui nous demandait « Quelle colle utilisez-vous pour fixer les impressions sur les cartons ?» Une amie qui faisait des maquettes en carton utilisait de la colle en bombe, qui m'a l'air assez pratique. L'avez-vous déjà testé ? Alors, pour ma part, moi, j'ai pas encore de colle en spray. Alors, c'est sur ma liste d'achat, mais j'ai pas encore acheté. Voilà. Par contre, j'ai trois colles que j'utilise régulièrement. Donc, Cléopâtre, en fait, c'est une marque qui est assez, que ce soit pour le scrapbooking ou autre, enfin, tout ce qui est loisirs créatifs, Cléopâtre, c'est une marque qui est bien appréciée. Donc, moi, j'utilise la colle vinylique Vinyl École. Que j'ai acheté en bidon de... Là, j'ai sous les yeux, là, je regarde, ça doit être un litre. Ouais, grosse. Un litre ou... Oui, c'est un litre. Que j'utilise, que j'ai même utilisé pour faire des maquettes en bois et qui tient très bien. Sinon, j'ai de la Cléocolle qui, là, est pour reliure et encadrement, donc qui est une colle extra-forte prise rapide, qui, là, du coup, à mon avis, est nettement plus costaud que la première colle que j'utilise, mais pour l'instant, j'ai pas eu besoin de passer sur celle-là. Peut-être que si j'avais utilisé ça sur mon lino, ça aurait fonctionné. Et puis, sinon, j'ai une colle UHU, donc c'est la colle vernis. Donc là, attention, parce que le vernis colle, c'est ce que tu disais la dernière fois, ça peut faire baver les impressions à jet d'encre, et du coup, voilà, faut toujours tester que la colle colle bien ou qu'elle fait pas baver. Voilà.
Ouais, c'est ça. Le jet d'encre, en général, de toute façon, tout ce qu'on y met dessus, il faut vachement s'en méfier, quoi. Alors du coup, pour aller plus loin dans la réponse, moi j'utilise en effet une colle en spray de marque 3M, donc forcément c'est la marque de colle par excellence, quoi. Qui s'appelle une colle, son numéro c'est 77. En fait, ils ont toute une gamme de colles numérotées comme ça. Je sais pas exactement à quoi correspond le numéro. Donc c'est vraiment une colle de bonne qualité à la fois en termes de colle et en termes de packaging, puisque le bidon il a un petit jet réglable en fonction de si on veut un jet fin ou pas, etc. C'est pas mal foutu. Et le gros intérêt qu'elle a, cette colle-là, c'est que si on est assez délicat, on peut repositionner. Ils disent même, en fait, dans la petite notice derrière, qu'en gros, si on laisse sécher le papier avec la colle dessus à l'air libre, longtemps, à la fin, ça fait un post-it, quoi. Donc, typiquement, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon plateau, mon verso des Aventuriers du Rail. Alors, la différence par rapport à ce qu'on vous a présenté jusqu'à présent, c'est qu'avec une colle en spray, comme ça, on encolle le papier, on laisse sécher 5 secondes, Et puis, on vient présenter le papier sur le support carton ou bois. Et du coup, ben, forcément, on a moins le droit à l'erreur en termes d'alignement, etc. Et donc, c'est vrai qu'une colle comme celle-là qui permet un repositionnement, c'est drôlement pratique. Alors après, j'utilise aussi pas mal le petit bâton de colle, la colle pour écolier, quoi, le petit bâton stick à colle, pour pas mal de choses, y compris, par exemple, pour coller... sur mes boîtes en carton pour coller la déco sur les boîtes en carton. Et l'air de rien, cette colle là quand on l'utilise bien, quand on en met une bonne quantité sur une surface assez grande, ça colle bien. Et bon, comme c'est quand même super pratique à utiliser, quoi. Donc voilà, en termes de colle, c'est tout. Alors c'est vrai que la colle en spray, c'est peut-être le truc ultime, mais voilà, c'est pas tous les usages non plus, quoi. Donc voilà pour la partie matérielle. Et puis merci à Jocelyn pour sa question. N'hésitez pas, si vous en avez aussi, on essaiera d'y répondre. Et du coup, là, on va faire deuxième nouveauté après la partie matérielle. On va vous présenter un jeu un petit peu plus en détail pour vous donner envie d'aller faire du print and play. Et donc, cette fois-ci, j'ai choisi le jeu No Good Gremlins de Nick Ace. Donc Nick Ace, c'est un gars qui fait beaucoup de jeux en print and play, qui bosse lui dans l'univers du jouet. Donc il a le truc de trouver ce qui va plaire, quoi. Y compris en termes de design, vous verrez les photos sur l'article. Donc je vais vous présenter un petit peu ce jeu. Donc il y a un jeu de cartes pour 2 à 5 joueurs. Donc la thématique, c'est les joueurs essayent de construire des fusées à partir de matières premières qu'ils ont trouvées, mais bon, c'est un peu la décharge, donc il y a des espèces de vieux morceaux de rouille et des bouts de bois. Bon, il y a quand même du joli chrome, mais il y en a peu dans le jeu. Donc on a ces matières premières, et puis on essaye de construire une fusée. Alors l'idée, c'est quoi ? C'est qu'on va cumuler plusieurs cartes de la même couleur, une couleur correspond à une matière première. Par exemple, le bois, c'est beige. Et donc, on va poser ces cartes bois devant nous, et quand on en aura 4... on a le droit de faire décoller la fusée. Si on la fait décoller avec ces 4 cartes, qui est le minimum, on va avoir un certain nombre de points de victoire. Et par contre, si on continue à rajouter du bois et encore du bois, on augmente vraiment fortement la quantité de points de victoire. Pour vous donner une idée, une fusée en bois avec 4 cartes, c'est 3 points de victoire. Avec 5 cartes, c'est déjà 6 points de victoire. Avec 6 cartes, vous passez à 9 points de victoire. Et ça monte très vite. Donc l'idée, évidemment, c'est d'inciter le joueur à pousser sa chance et à enchaîner j'ajoute du bois. Sauf que la petite subtilité, c'est que lorsque tous les joueurs ont effectué leurs actions, il y a les gremlins qui jouent. Et le principe des gremlins, c'est qu'ils vont venir manger les fusées qui sont devant les joueurs en fonction d'un paquet de cartes, donc c'est tiré au hasard, quoi. On sort une première carte, mettons chrome. Ça veut dire, attention, les gremlins, ils aiment bien le chrome. Et la deuxième fois qu'on sort une carte chrome, vraiment toutes les fusées chrome qui étaient en cours de construction, elles dégagent. Donc évidemment, on a quand même une visibilité sur ce qui va se passer, mais elles peuvent très bien sortir coup sur coup. Donc voilà, l'idée c'est ça, les joueurs ils construisent leurs fusées, en essayant de pousser un peu leur chance, mais sans aller trop loin. Et ce qui fait vraiment toute la subtilité du jeu, c'est qu'il y a un petit gremlin qui s'appelle le gremlin errant, et lui en gros, il se balade, il va voir les différents joueurs, et on peut le soudoyer en lui filant des matières premières. Et quand on le soudoie, on a un petit pouvoir. Par exemple, on va avoir une action gratuite, ou on va avoir le droit de lancer une fusée, même si elle n'est pas complète, ce genre de choses. Par contre, si vous lui donnez rien et qu'il est devant vous, hop, il va vous bouffer des matières premières. Donc il y a un petit jeu à faire avec ce gremlin, parce que il faut l'utiliser quand on l'a, mais il faut aussi le refiler au voisin, parce que des fois, si on lui file rien à bouffer, hop, il va bouffer vos fusées. Une fois que le paquet de cartes est épuisé une première fois, selon le nombre de joueurs, on recommence, on le mélange et on recommence. Et puis en gros, quand le paquet de cartes est terminé, les joueurs comptabilisent leurs points en fonction des fusées qu'ils ont réussi à lancer. Donc c'est un jeu qui, au premier abord, est assez simpliste, en tout cas dans l'explication et dans les règles quand on voit le matériel de jeu, mais qui finalement apporte pas mal de subtilité, d'autant que quand vous piochez des cartes, vous avez le droit de piocher des cartes face cachée ou de piocher des cartes dans une espèce de défausse. Et là, dans ce cas-là, si vous prenez la carte du dessus et toutes les cartes de la même couleur qui sont dans la défausse, donc éventuellement vous pouvez aller ramasser d'un coup 10 cartes que personne n'a voulu. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui font que le jeu est assez sympa, assez rigolo. Et puis la thématique des gremlins et les jolis dessins, ça fait qu'on aime bien.
Et donc, comme c'est un jeu de cartes, vous savez maintenant les faire.
Et ce que j'ai pas dit d'ailleurs, c'est que c'est à partir de 8 ans et pour un temps de jeu annoncé de 45 minutes. Alors moi, j'ai plutôt constaté un petit peu plus quand on joue à 5, surtout si c'est des joueurs qui connaissent pas le jeu. Mais 8 ans sans problème, même j'ai joué avec des enfants plus jeunes que ça. Donc voilà pour la présentation de ce jeu. Puis je vous présenterai probablement d'autres jeux de Nick Hayes par le futur parce qu'il en fait plein qui sont assez sympas. Je vais attaquer une petite partie news un petit peu rapide parce que j'ai pas énormément de choses à dire encore, mais il y a quand même quelques trucs sympas, en particulier un certain nombre de Kickstarter. Alors j'ai sélectionné des Kickstarter qui offrent le print and play gratuitement. La dernière fois on avait parlé de, enfin la dernière fois ou la fois d'avant, je sais plus, de Time Masters où le print and play était gratuit mais c'était une version limitée. C'est bien aussi. Là, on est sur des print and play dont, en gros, même si le print and play est terminé, même si le Kickstarter est terminé, pardon, le print and play est encore disponible. Donc le premier, c'est Get Lucky. C'est un jeu de Chipass. On en a déjà parlé puisque c'est eux qui ont fait Agora. C'est un jeu de cartes qui est inspiré du jeu Kill Dr. Lucky, qui est un jeu aussi de Chipass Game, évidemment. Kill Dr. Lucky, c'est un anti-Cluedo. En gros, l'idée, c'est vous êtes dans une maison, mais vous cherchez pas le tueur, vous cherchez, vous, à tuer la victime. Et tous les joueurs essayent de tuer la victime. Là, c'est en gros le même principe, mais avec un jeu de cartes, quoi.
À noter que Chipass Game fait régulièrement des vidéos sur... ils avaient fait une vidéo sympathique sur comment découper Agora avec leur super massico que je rêve d'avoir. Et là, aujourd'hui, je suis tombé sur une vidéo qui vient de sortir a priori sur les trois méthodes classiques qu'ils utilisent pour faire des cartes. Donc c'est Jem Ernest qui fait ça. Si vous le suivez sur Facebook ou si vous suivez la page de Chipass, vous pourrez voir cette vidéo.
Du coup, vous nous direz si ils font mieux que nous, c'est probablement le cas.
On a dû les inspirer.
Oui, c'est ça. J'enchaîne avec un jeu qui s'appelle Tattle Tale. Alors, je ne vais pas vous l'appeler. Hein. C'est un jeu, je voulais vous en parler, parce qu'à la base, il est apparu dans un concours, encore un concours de game design, qui a eu lieu en 2013, qui s'appelait PNP, Print and Play toujours, hein, Hidden Role Bluffing Card Game, donc des jeux de bluff ou des jeux à rôle caché. Donc, bon, en gros, c'était tout un tas de gens qui se mettaient au défi de faire des jeux dans la lignée des loups-garous, résistance ou ce genre de jeu. Où il y avait eu quelques trucs assez sympas. Et donc celui-là, Tattle Tale, l'idée c'est des étudiants qui font les fous à l'école, ou pas, ou qui vont bien étudier. Et en gros, si vous êtes le seul à bien étudier, vous allez bien vous en sortir. Mais si tout le monde se met à bien étudier, il n'y en a qu'un qui s'en sort. Enfin, voilà, c'est une histoire de double guessing. Donc là, il y a un print and play qui existe depuis le concours. Et le Kickstarter est assez récent. Mais ceci dit, il est peut-être bien déjà terminé.
Dans la lignée de The Resistance, on trouve aussi Two Room and a Boom, donc qui se joue à beaucoup, donc de 6 à 30, qui m'est a priori plus sympathique à partir d'une dizaine de joueurs. Donc dans ce jeu, les joueurs sont répartis en deux équipes, donc on a une équipe rouge et une équipe bleue, et puis on va séparer ces deux groupes dans des pièces différentes pour que les personnes puissent discuter entre elles. À la fin de chaque round, y a un otage qui va être échangé entre les groupes, et au bout de 5 manches, si le président et la bombe sont dans le même groupe, les rouges ont gagné. Donc voilà, là aussi, un jeu à la The Resistance ou les loups-garous, où on va communiquer. Mais le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas d'élimination, puisqu'on joue les différents rounds. Et à la fin seulement, on a on a des gagnants et des perdants. Voilà.
Bon, mais du coup, pendant que tu parlais, j'ai vérifié. En effet, Tattle Tale, il est fini. Il est même fini depuis un moment. Et il a été financé à 468%. Donc le print and pay est toujours disponible. Ça m'étonnerait que vous puissiez avoir le jeu dans la boutique du coin. Et du coup, vous êtes content d'avoir le print and play. Et alors, dernier jeu dont je vais vous parler, toujours pareil, un print and play avec un Kickstarter avec les print and play disponibles, qui s'appelle The Trilateral Conspiracy. Donc c'est encore une histoire avec des rôles cachés, mais ceci dit, le jeu a l'air un petit peu plus... avancer peut-être plus à la Shadowhunter, avec un plateau, avec un certain nombre de combinaisons de cartes, etc. Et sachez qu'évidemment, il existe d'autres Kickstarter avec des versions print and play, parfois payantes, parfois limitées. Ce qu'il faut, c'est suivre, se tenir au courant. Vous avez vu que nous, on vous parle souvent des Kickstarter qui sont terminés parce que forcément, entre le moment où on prépare, le moment où on enregistre et le moment où vous avez le podcast dans les oreilles, il se passe un certain temps. Donc, je vous remettrai l'adresse du blog print and play Game News et l'adresse aussi d'une liste sur Board Game Geek qui parle de tous les Kickstarter qui ont un print and play. Et ils ne se limitent pas au print and play gratuit, donc il y a beaucoup de choses.
Et donc en print and play payant, moi j'ai béqué pour Three Card Monte, qui donc est un jeu de cartes. J'en sais pas beaucoup plus en fait, parce que j'ai béqué pourquoi ? Simplement parce que la version print and play était à 1$ et que le jeu était financé à plus de 100%. Je me suis dit que ça devait avoir au moins un petit intérêt. Et puis j'attends d'avoir ça, de pouvoir découper et tester pour vous en dire un petit peu plus. Et voilà, donc c'est la fin pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, on vous parlera de moteur de jeu, mais on ne vous en dit pas plus pour l'instant. On vous rappelle que si vous avez des idées, des questions ou des sujets dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail, un message sur le blog de ProxyJeux, un tweet ou un message sur Facebook, n'importe, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir qu'on vous fera des parties de chroniques dédicacées. Voilà, et maintenant que vous savez quoi faire de vos 10 doigts, jouez bien.
Bon alors,
déjà
présentation vite, des jeux. Ah, ouais.
C'est de nouveau merci très
encore,
intéressant.
Merci encore à Alexis et à Courju, c'est très clair. Heureusement que moi j'ai écouté. Très clair, très intéressant. Ils font une double présentation. D'abord, comment faire soi-même des plateaux de jeu.
La théorie.
Donc ça pourrait, tu vois, il faut les écouter pour avoir les cartes.
Je prends un jeu.
D'ailleurs, et comment faire des cartes aussi. Et puis après.
J'ai un jeu avec un plateau et ce que je disais tout à l'heure, un jeu pour myrtille. C'est pour ça que je commande sur Spiel Matériel. Voilà, c'est que j'ai pas que des jeux dans ces gammes-là.
Alors est-ce que tu as un scalpel?
Oui, bien sûr.
Ah, tu es quelqu'un de bien.
Ah, t'es déjà bien équipé.
Une table à découper, j'ai tout ce qu'il faut pour.
Voilà, donc les d'ailleurs, je sais pas, ils veulent. Ils m'ont parlé de quitter un petit peu la technique et de faire de la thématique pour la prochaine fois, ça risque de changer. En tout cas, je suis très content de les écouter.
Au bout d'un moment, quand ils ont fait toutes les composants du jeu, forcément, ils vont manquer un peu. Comment tu coupes tes cubes en bois? Tu les peins toi-même?
C'est ça. Eh, hey, faire de la peinture. Tiens, ça serait aussi un truc.
Ta peinture, quoi.
Bah là, je connais quelqu'un qui fait de l'encre, donc pourquoi pas de la peinture. Hein.
Ouais. Voilà.
On l'appelle le poulpe. Pardon, il est un peu tard.
La poulpe. Alors, moi, je voulais vous parler d'Intrigue à Venise. Alors, Intrigue à Venise, c'est pas du tout une nouveauté.
Un petit peu, parce qu'il est réédité.
Oui, c'est ça. Moi, je vais vous parler de la réédition de 2013. Léo Colovini et Alex Randolph, un jeu pour 3-5 joueurs. A priori, ça se joue à 4. Hein. Ni à 3, ni à 5. Il y a des variantes, mais c'est des variantes qui sont faites juste pour le vendre de 3 à 5. Jouez-y à 4.
Ouais.
10 ans et plus, et pour 60 minutes. Je pense que c'est assez le cas si on connaît le jeu et si on sait comment faire. L'idée est simple. Donc deux équipes de deux, ça fait 4 personnes, un grand plateau. Sur ce plateau, il y a des figurines qui sont de plusieurs couleurs, de 4 couleurs. Donc on a du vert, du jaune,
rouge.
Je ne vois plus la boîte, du rouge et
c'est
du bleu. Et puis on a une figurine noire qui est, je ne sais plus comment ils l'appellent, qui est une figurine un peu spéciale et qui on va pouvoir poser des questions. Parce qu'on pose des questions dans ce jeu. En fait, notre personnage est défini par 3 cartes. On a une forme. Donc, il y a des figurines qui sont plus ou moins grandes et plus ou moins grosses. Un nom. Donc, il y a Madame Zaza, il y a Colonel Bubble, et puis il y en a deux autres, Lord Fiddlebottom, et puis Agent X. Donc on est un de ces 4 personnages, on a une certaine forme, et puis on a une lettre A, B, C ou D. L'idée c'est que Madame Zaza est avec Agent X et que Lord Fiddlebutton est avec Colonel Bubble. Sauf que quand on commence la partie, on ne sait pas qui est qui. Et que pendant toute la partie, on va essayer de reconnaître sa paire et on va essayer d'avoir une lettre, d'échanger ses lettres pour réussir une mission. C'est-à-dire que si je suis l'agent X, je suis avec Madame Zaza. Si j'ai A et que Madame Zaza a D, il faut que j'amène Madame Zaza sur la case de l'ambassadeur. Ah bah voilà, c'est l'ambassadeur, la figurine noire. Ou inversement. Donc il faut arriver à ça, si tu veux. Le plateau, c'est Venise. On peut se déplacer soit par les canaux, soit par les rues. Et on a ce que tu es en train de secouer. Voilà. On a une sorte de tour à dés. C'est pas du tout une tour à dés. En fait.
Tour à billes.
Ouais, c'est vrai. Une tour à billes qui va... qu'on va secouer et qui va montrer 3 billes, donc il y en a des bleus, qui veut dire je peux faire déplacer d'une case une figurine, de faire un déplacement avec une figurine par les os. Blanc qui veut dire je peux le faire soit par les os, soit par la terre.
Bon, ça suffit maintenant.
Et orange c'est par la terre. Et après on a du noir et du violet. Le violet c'est je déplace.
J'ai pas eu le violet encore.
Je déplace, mais il y en a moins en fait. Je déplace une figurine adverse vers moi et noir.
Il est attrapé en fait.
Je déplace le comment j'ai dit qu'il s'appelait ?
L'ambassadeur. Il perd ses mots.
Donc grosso modo, mais oui, mais c'est super chiant d'entendre secouer ce truc-là.
Ah mais attends, j'ai pas eu le violet, je peux encore ?
Ouais, tu peux. Et au final, bah comment ça va se passer ? C'est très simple, c'est-à-dire qu'on va faire ces trois déplacements et puis à un moment donné, on va échanger des informations avec les autres. Alors, à échanger des informations, on va avoir trois. On va poser des questions à l'adversaire. À quelqu'un. On va déplacer un pion de sa couleur sur un pion de la couleur de ce joueur. On va lui dire, moi, je veux connaître plutôt une caractéristique de ton apparence. Et tu vas donner deux cartes, dont une va correspondre effectivement à ta vraie apparence et une information supplémentaire. Donc tu peux dire je suis Madame Zaza et je suis soit grande et mince, soit petite et grosse.
Et que de bonnes informations ?
Non, tu peux en mettre une, deux ou trois.
D'accord, tu en mets au moins une bonne ?
Tu dois en mettre au moins une bonne. Faut pas jouer bourré parce que sinon ça marche pas. Et il y a un autre truc, c'est que tu as toutes les cartes possibles, c'est-à-dire que tu as une carte pour Lord Fiddlebottom, une carte pour Madame Zaza, etc. T'as les quatre personnages en main. T'as les quatre différentes tailles de figurines en main. Et tu as aussi trois cartes. Donc, c'est les trois cartes qui constituent ton personnage, qui sont grises et pas de ta couleur, que tu vas aussi pouvoir donner. Ce qui veut dire que les informations que tu vas donner, c'est soit des informations... Ça peut être une des trois cartes, ou deux des trois cartes, ou trois des trois cartes. Mais je peux aussi, puisque je sais que tu es... Enfin, je pense savoir que tu es mon partenaire, je vais te donner une carte grise. Et donc tu vas voir, c'est une carte, c'est la vérité en fait. Je vois que ça c'est toi quoi, tu es Lord Fiddlebottom, y a pas de doute. En réalité, il y a des fois, tu te dis toi t'es avec moi, tu lui donnes des cartes grises et là
et
c'est le drame. Elle te regarde et tu te dis bon bah c'est bon, file-moi ta carte lettre pour qu'on puisse... Et en fait, c'est rigolo parce que chaque joueur a une mimique, un tic. Donc il y en a un qui se touche l'oreille, l'autre qui fait des clins d'œil, l'autre qui se touche je sais pas quoi. Et en fait, on a...
Oui, quoi ?
Je ne sais pas quoi. Et on n'a absolument pas joué avec ça. Et puis tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle fout ? Pourquoi elle me donne pas sa carte ? Mais non, c'est juste parce qu'elle n'est pas dans ton équipe. Bref, c'est très bien. C'est Alexandre Randolph. Donc, tu as un petit carnet pour marquer toutes les propositions que tu as fait aux autres et ce qu'ils t'ont dit. C'est un jeu de déduction. C'est un jeu de bluff aussi.
À partir de quel âge tu penses, à peu près ?
À mon avis, jeune.
10-12. Ouais.
Bien des pré-ados parce que sinon.
C'est ça, hein. C'est ce que je pensais. C'est-à-dire que sous des allures de jeu familial, etc.
Ah, pas du tout. Et la publicité, Stéphane, si tu m'entends, il faut absolument que, ou toi d'ailleurs, faut qu'on mette en ligne la vieille publicité.
La vieille version. Ah, la vieille publicité.
Ouais, quand t'as les mecs qui courent dans Venise, qui disparaissent dans le, ah, dans le brouillard. Chose. Donc, très bien. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Alex Randolph, que ce soit Fantôme contre Fantôme, enfin Geister, que ce soit le jeu avec les... Tu tombes là, le truc...
Hein, hein. Le truc qui tombe.
Qui est réédité, la petite boîte. De bluff avec le dé.
Ah, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ah, ciao, ciao, c'est excellent.
C'est que du bluff. Et tu vois, on parlait en début d'émission de concept très simple. Ciao, ciao, c'est je secoue un dé, j'avance d'une ou deux ou trois cases.
T'annonces ce que le dé a affiché, mais en fait, t'as une chance sur trois pour qu'il t'affiche une croix. Il faut que tu bluffes ou que tu mentes aux autres joueurs.
Et tu peux avancer ou pas. Et les autres se disent soit oui, ok, avance, soit non. Et là, c'est eux qui. C'est la pénalité, elle est pour eux. C'est un Pokémon-menteur, mais à une toute petite échelle, tu vois. Et c'est juste incroyable. Geister, les bons et les mauvais fantômes.
Fantôme contre fantôme, maintenant.
Ce gars-là, c'était un génie, quoi.
Ah, mais j'adore, j'ai joué avec les enfants, c'est les jeux, tu sors et ils sont pas démodés, quoi.
Donc, très belle réalisation, un très grand plateau. Ce que c'est faire Yellow, en fait, et bien le faire avec. Après, c'est pas très beau, hein, mais c'est. C'est fonctionnel.
C'est bravo. Tu dis ce que c'est faire Yellow, c'est non, pas très beau.
Non. Le plateau en lui-même, si tu veux, Venise, est pas très beau. T'as des petites figurines en plastique qui. Les cartes sont magnifiques.
Mais ce que je trouve sympa, c'est que. C'est pas. C'est un côté justement.
Années 80.
Ouais.
Ouais, le plateau, il a gardé
plateau
son style.
Ce côté années 80.
À cause de son design, un peu. Il est pas dans le design moderne, quand non. même, avec des graffitis. Tu vois, c'est des bâtiments là, en quadrichromie.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
C'est quand même typé années 80, quoi. Ouais, c'est
quand
t'avais
un ordinateur et que tu pouvais afficher que 16 couleurs.
Ouais, même la typo, regarde le 6, là, son style. C'est... Ouais.
C'est bref.
T'entends après, quoi.
Un vieux jeu.
Il a un avantage, c'est que la boîte, elle est en format carré. Par rapport à la vieille boîte qui avait un gros format rectangulaire. Et ouais, ça a une trentaine d'années. Ouais. J'exagère à peine, je pense, en disant que ça.
Moi je le conseille, c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, on va dire, ouais,
c'est que pour 4 joueurs déjà,
c'est tout important. Ça. Pardon ?
C'est que pour 4 joueurs déjà, ça c'est important. Hein.
Ouais.
J'ai déjà dit au début, mais il faut bien l'insister parce que.
Et puis après, encore une fois, faut pas jouer bourré, faut pas jouer avec des gens un peu lents.
Souvent bourré.
Faut pas jouer avec. Non, mais tu vois, je vois la boîte de Rampage, tu peux jouer bourré, quoi. Et ouais. Il vaut mieux jouer bourré, je pense. Et alors
qu'un truc à Venise. Il n'y a pas de blabla.
Moi, je crois pas avoir de jeu où il vaut mieux jouer bourré, moi.
C'est combien l'intrigue à Venise chez
34,95€ chez Philibert.
35€, et je pense que ça les vaut bien. T'as plein de matériel. Et puis c'est cool.
Belle conclusion.
Voilà. Donc, je vous invite à l'essayer à minima. Et si vous aimez les jeux de déduction, je pense que c'est un jeu assez atypique dans une ludothèque. Et il faut l'avoir. Jérémy. Est-ce qu'on ne s'écouterait pas Fenduel nous parler de
oui.
Flashpoint ?
Flashpoint, excellent jeu coopératif dont on parle de temps en temps.
Flashpoint, c'est un excellent jeu coopératif parce que j'aime beaucoup la dynamique de propagation du jeu.
Du feu. On se croirait dans Backdraft.
Ouais, et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup, de toute façon, les jeux coopératifs, sauf quand il y a un leader.
Bon, mais on va pas cacher ça. On va pas gâcher sa chronique. On écoute. Ouais.
Oh, quelqu'un a coupé le gâteau.
I'm making a note here. Proxy, je présente la minute de Fenduel.
Le test est fini, bravo.
Flashpoint Fire Rescue est un jeu de Kevin Lansing, édité en 2011 et en anglais chez Indie Boards and Cards. C'est un jeu coopératif pour 2 à 6 joueurs qui permettra aux joueurs d'incarner des pompiers pendant environ 45 minutes, qui essaieront de lutter contre un feu qui envahit une maison ou un bâtiment, et d'en sortir les éventuelles victimes. 2 niveaux de règles, on a des règles familiales qui sont relativement simples et qui sont parfaitement adaptées pour jouer en famille, et on a des règles un peu plus avancées pour rendre les parties encore plus intéressantes entre personnes qui aimons la chose ludique. Je vous parle de ce jeu parce que il vient de sortir une nouvelle extension encore pour Essen cette année. Comme à chaque fois, chaque extension en fait apporte son lot de nouveautés. Alors dans le jeu de base, on avait déjà des personnages qui étaient plus ou moins spécialisés, qu'on pouvait éventuellement changer en cours de partie, qu'on retrouvait par exemple un spécialiste des soins qui pouvait soigner les victimes, etc. Enfin, voilà. Il existe 3 extensions actuellement. Donc, une qui s'appelle Urban Structures, une autre qui s'appelle Second Story, et la dernière qui s'appelle Extreme Danger. Et ces trois extensions offrent de nouveaux plateaux recto-verso, donc avec de nouveaux bâtiments, et donc qui sont structurés différemment. On pourra avoir des étages et donc se servir d'autres mécaniques comme une échelle amovible qui pourrait être placée pour atteindre les étages supérieurs. On aura également un laboratoire avec évidemment des produits toxiques ou dangereux qui ont des risques d'explosion beaucoup plus élevés qu'une maison. Ou un garage, pareil, on pourra avoir l'explosion de voitures à l'intérieur du bâtiment. Et également la possibilité d'avoir d'autres spécialistes, des spécialistes qui pourront réparer des murs, réparer le sol qui pourra s'effondrer, on pourra traverser un étage, etc. Donc il pourra y avoir plein de catastrophes qui vont se passer. Et la dernière extension propose des petites figurines qui représentent chaque spécialiste, chaque pompier spécialiste. Donc c'est très plaisant aussi de jouer avec les figurines qui nous plongent bien dans le thème. Alors le graphisme, moi j'aime beaucoup. Certaines personnes sont pas très fans de ce graphisme assez sobre. Voilà, ben moi je trouve ça très très sympathique. Donc je rappelle le nom du jeu. Donc il s'agit de Flashpoint Fire Rescue, qui est édité donc depuis 2011, mais qui est disponible sur Internet. L'auteur étant Kevin Lansing, et édité chez Indie Boards and Cards.
Plein d'extensions, vous pouvez toutes les trouver chez Philibert, ça dépend, 13,50€ pour les extensions qui amènent juste des cartes supplémentaires, enfin des plateaux supplémentaires. Vous avez celle qui amène juste 2 cartes supplémentaires de rôle, donc à 9,99€, Le Chien et le Vétéran. Et puis on peut carrément aller avec Danger Extrême, enfin Extreme Danger, qui là ramène carrément une boîte très pratique pour ranger tous vos plateaux.
C'est le fameux goodie qui sert en fait.
Bah ouais, alors rien, c'est pour ça que je l'ai acheté. Bon, par contre, c'est 34,90€.
Quoi, la boîte là, vide dans laquelle
non, tu ranges. Non, parce qu'elle ramène du matos en plus, etc. Ah. Ouais, ouais. Voilà.
C'est une boîte pleine dans laquelle tu ranges aussi les autres boîtes.
Ouais, et il y avait Dungeons Waters qui n'est pas disponible chez Fiverr, qui était sorti à Essen, mais qui va pas tarder à revenir, je pense. J'enchaîne avec
Unchained.
Avec Dominion. Enchaîne. Parce que Dominion.
C'est pas fini encore cette histoire.
Voilà, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé. Vous savez, c'est pas comme Olivier, il a fait longtemps qu'il n'a pas parlé de son SDAJCE. C'est comme ça. C'est pas qu'on a abandonné. C'est juste que Dominion, il y a une extension par an seulement. Donc il faut être patient. Et en l'occurrence, donc là, c'est la 8e. Alors Vaccarino, quand il a sorti Dominion, il avait dit j'aurai 8 extensions. J'espère qu'il blaguait et qu'il en aura d'autres qui sortiront. Mais pour l'instant, en tout cas, on est à la 8e avec Guild. Guild, c'est un format d'extension petite boîte, comme il y a eu Abondance et Alchimie. Voilà, donc c'est-à-dire, elle est à 22€ chez Philibert, un format plus petit, mais aussi moins de cartes, il y a 13 cartes royaumes dedans. Alors, qu'est-ce que ça amène de nouveau? Alors, encore une fois, on va voir rapidement sur les pouvoirs. C'est une extension que je ne conseille pas aux joueurs débutants. De toute façon, je pense que Dominion, enfin là-dessus, ils ont bien fait, c'est-à-dire que les extensions, elles sont quand même assez croissantes en difficulté, en manière d'appréhender le jeu. On a fait un dossier, alors il y a 2 ans, donc toutes les extensions n'y étaient pas, mais si vous cherchez dans nos anciens, dans les épisodes suivants, on a fait les reviews quand les extensions sont sorties. Voilà. Alors par contre, pour ceux qui sont impatients, alors petite nuance, moi, je vous en parle maintenant parce que le jeu est sorti, enfin l'extension est sortie en français, mais moi, n'ayant pas pu attendre, je l'ai évidemment acheté dès l'automne en anglais. Donc, sur les termes, il se peut que je ne sois pas tout à fait en cohérence avec les termes français. Qu'est-ce que ça amène en gros, Guild, il y a surtout 2 nouveaux concepts. On va retrouver les jetons, les pièces, les coins, tu vois, je commence déjà, les coin tokens, n'est-ce pas, les pièces en monnaie, enfin en argent, là, qu'il y avait dans une extension, je ne sais plus laquelle, Prospérité, je pense. Et on va l'utiliser d'une manière différente cette fois-ci, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qui permettent de gagner ces jetons. Et ces jetons, on les stocke de côté, on ne les met pas comme dans, c'était dans Prospérité, ouais, on les mettait sur un... ou Seaside plutôt, et on les mettait sur une carte à part. Par exemple avec le bateau pirate, là on va les mettre de côté directement, et plus tard dans un tour, quand je fais un achat, si par exemple j'ai 7 argent et il manque un pour acheter la province, ben je prends un de ces jetons et je paye directement. C'est-à-dire que ça va rendre le jeu beaucoup plus violent dans ce sens-là, où on va pouvoir plus facilement gommer les effets de hasard où des fois on n'a que 7 pièces en main. Par contre, après, ça pose des choix. C'est est-ce que j'utilise mon jeton ce tour-ci ? Est-ce que j'attends le tour d'après ? Il va falloir doser cet aspect-là. Ensuite, l'autre aspect intéressant du jeu qui est amené, c'est la notion de... alors, c'est overpay en anglais. On va dire, on peut payer une carte. En fait, on peut payer une carte plus chère que ce qu'elle est vendue. Par exemple, il y a une carte, elle est vendue à 2 et il y a un petit plus après. C'est-à-dire que je vais la payer au moins 2. Et ensuite, si je paye plus, pour chaque sous que je paye en plus, je vais gagner un bonus. Et typiquement, ces cartes, elles sont faites pour utiliser le pouvoir d'achat supplémentaire. Sinon, ça vaut pas le coup.
Et tu gagnes quoi en plus ?
Bah, ça dépend. Par exemple, le chef-d'œuvre Masterpiece, une que j'aime bien, elle coûte 3 pour gagner à peine 1 sou. Alors que je rappelle, normalement, c'est équivalent à... d'un cuivre qui coûte 0 normalement dans le jeu, mais en fait après pour chaque fois que je vais pour chaque 1 que je paye en plus pour cette carte, je vais gagner 1 argent. Donc des fois si t'as 6 en main, tu peux acheter un or ou bien tu peux acheter un chef d'œuvre et 3 argent. C'est une question de choix ensuite sur la manière de faire ton deck. Voilà,
c'est pas mieux, c'est pas grave,
ça dépend. Moi, j'aime bien, le problème c'est le masterpiece. Après, plus tard, t'as une carte qui est un peu, t'as un cuivre, quoi. T'aimes pas y avoir des cuivres en fin de partie, ça te plombe ta main. Donc, il faudra trouver un moyen de l'éliminer. Voilà. Et au niveau des attaques, parce que moi, ce que j'aime dans Dominion, c'est l'interaction qu'il y a dedans, notamment les attaques. Donc, il y a le Soothsayer, donc je sais pas, teaser de, je ne sais pas, qui permet de gagner un argent et qui en plus fait gagner une malédiction aux autres joueurs. Moi, rien que ça, j'adore. Par contre, il pioche une carte, donc il faut bien une petite compensation. Et ça coûte 5, mais vraiment, c'est d'enfer pour donner plein de malédictions aux autres joueurs. Et il y a le Taxman,
le collecteur d'impôts.
Le collecteur d'impôts, ouais. C'est, ouais, c'est un super pouvoir qui permet de. On écarte une carte argent de sa main, quelconque, enfin, un trésor de sa main. Et les autres joueurs, s'ils ont une main, doivent la défausser. Ça leur fait aussi assez mal en général. Pour peu que tu écartes comme ça un argent, tu peux leur faire empêcher quelques bons achats. Voilà, de toutes les, enfin des dernières extensions, c'est pas la meilleure parce que je pense que c'est un format petite boîte, donc il n'y a pas assez de cartes pour vraiment venir révolutionner le jeu. Je vous ai parlé que quelques cartes parce que j'ai promis de, je peux vous faire. Le but c'est pas de faire un inventaire complet, c'est juste les nouveaux concepts qui sont amenés dedans. Maintenant, voilà, c'est l'occasion. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas sorti Dominion. Une extension, c'est justement l'occasion de ressortir. Et alors, ce qui est génial, c'est que du coup, on la ressort une fois avec la boîte de base. Après, on va la ressortir avec telle extension. Enfin bon, j'ai toutes les extensions, donc on sort un peu avec tout et on trouve des nouvelles combos. Toujours. Ça renouvelle suffisamment le jeu. Toujours des combos. Ça renouvelle suffisamment le jeu. C'est très agréable. Toujours aussi. Je pense que si vous êtes tenu jusqu'à la 7e extension, vous craquerez forcément pour la 8e. Si c'est pas déjà fait. Voilà. Okay. Par contre, c'est pas là. Si vous les avez pas toutes, je pense que vous en avez d'autres à prendre avant. Écoutez mes chroniques précédentes. Voilà, Olivier prépare.
Ouais, je suis en train d'attraper
la boîte de Roads and Boats.
Dans l'épisode précédent de Proxy Jeux. Jérémy nous avait dit oui, bah, je vais vous parler des jeux. Comment ils s'appellent ces gens-là ?
Je sais pas. Ah, j'ai parlé de Wildcatters et on parlait, du coup, on a dit qu'il faudrait que je vous parle de Splatter.
Je vais vous parler des jeux Splatter.
Et Roads and Boats, c'est un très bon.
Et là, visiblement, il est un petit peu revenu sur sa parole. Il parlait des jeux Splatter et il a parlé de Roads and Boats, qui était quand même excellent.
Et j'adore Indonésie, si vous voulez, je parle d'Indonésie.
Est-ce qu'on trouve Roads and Boats ? Non, on va commencer par
Roads and Boats. Non, Roads and Boats, on en parlait parce qu'il a été réédité à Essen.
Et donc, vous pouvez le trouver et donc il faut l'acheter maintenant. C'est pour ça qu'il faut que l'on
en parle. Je vais vous dire le prix. En moyenne, ça peut être
90 euros, 80 euros.
Au moins, oh là là, tout de suite.
Donc, je vais en profiter. 80 euros, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est cher en fait ? 80 euros, vous allez passer des heures
bargain, comme
à dépuncher.
79 euros exactement.
80 euros.
Et Philibert et son extension, 29,95 €.
Vous allez passer des heures parce qu'il y a énormément de matériaux.
Mais Olivier, c'est bien rangé, ça.
On a des hexagones. On a des meeples. Alors des meeples avec tout un tas de trucs. Alors moi j'ai l'extension.
C'est les
aussi,
transports.
Etc.
En fait c'est les transports. On va voir. Ouais.
C'est ça.
Donc les ânes, les radeaux, les camions.
Ouais, ça c'est en gris, c'est ça. Et puis, oui, bah désolé. Hein. J'ai une boîte de rangement avec tout plein de trucs dedans.
Et c'est le do it yourself.
Et c'est incroyable. Et donc il y a un tas de trucs incroyables.
Le nombre de jetons, vous allez dépuncher, c'est des planches entières avec des jetons. Tout... Non, c'est pire, c'est Antiquity. Mais là aussi, vous avez de quoi comme dépuncher.
Et aussi, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir
un rouleau.
Un truc improbable, c'est une. Comment ça s'appelle une plaque en plastique.
Ouais, c'est un rouleau.
Un rouleau,
c'est pas du plexiglas parce que c'est plus fin, mais en fait, à déployer, vous allez déployer sur le plateau de jeu que vous avez constitué en début de partie.
Parce que j'ai parlé d'hexagone, vous allez créer votre propre monde. Il y a des scénarios dans le livret de règles pour 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'interactions, alors il faut quand même pas se perdre sur une grande carte. Et puis en plus, on peut avoir des rivières et on peut avoir des étendues de mer, puisque Roads and Boats, donc les routes et les bateaux. C'est un jeu de logistique.
Tu connais, t'as connu Settlers en jeu vidéo sur, il y a une vingtaine d'années facile,
non.
Sur PC peut-être Amiga à l'époque.
Non,
rien.
Donc
c'est comme Settlers.
On crée notre. Okay.
Voilà, tu vois bien.
C'est bon, j'ai.
Donc, c'est pour ça aussi que j'ai du scotch dans la boîte pour pouvoir poser.
Oui, pour ce que tu
poser d'abord les hexagones, après poser le plateau en plastique, et après bien scotcher.
Parce que le plateau, comme il est le rouleau plastique, comme il est stocké en rouleau, c'est compliqué.
Et donc l'idée, c'est que il y a uniquement 4 phases dans Roads and Boats. C'est très très simple. Une phase de production, une phase de mouvement, une phase de bâtiment et une phase de merveille. La phase de mouvement, la première phase, c'est une phase de production. Phase de production des bâtiments ou phase de reproduction pour les animaux, parce que les ânes vont se reproduire.
Et les oies.
Les oies vont se reproduire. Alors les oies, c'est rigolo. C'est rigolo, les oies. C'est vraiment le truc.
Les oies ou les ânes, il faut qu'ils soient tout seuls dans un champ, qu'il n'y a absolument rien qui les perturbe. Quoi.
Et là, quand vous avez 2 ânes, vous en avez un 3e. L'âne se déplace pas vite, pas loin. Quand vous avez tracé avec votre petit stylo sur le plastique une route entre 2 hexagones, ça va un peu plus vite. Et puis, une fois la phase de reproduction passée, vous pouvez prendre le jeune et l'amener un peu plus loin. Vous pouvez aussi créer un bâtiment. Il y a des ressources, du bois, il y a de la pierre.
On peut avoir de l'argile qu'on va retransformer. Voilà. De la pierre et le bois au départ, et ensuite on va avoir le pétrole.
Et puis il y aura aussi
le fer et l'or.
L'or, et l'or va pouvoir nous permettre.
Et le papier, c'est ça, c'est du bois.
La plume, c'est ça.
C'est le papier,
les oies.
Les oies, c'est les oies, et il faut le papier pour mettre avec les oies.
Pour faire des recherches, la recherche fondamentale.
Le papier, on l'obtient à partir de la. En fait, il faut transformer après son bois en planche. Enfin, c'est un jeu où vous avez pas mal transformé les ressources.
On crée des bâtiments. Les bâtiments vont nous permettre justement par exemple, de transformer le bois en planche ou la pierre en. Je sais pas quoi.
Non, la pierre, tu l'exploites direct.
Tu l'exploites direct.
Mais t'as l'argile que tu vas pouvoir transformer en pierre.
Et puis, l'idée, c'est une déconstruction. Donc, on va transformer des matières premières qu'on va transformer en matières secondaires qui vont nous permettre de faire des bâtiments, qui nous permettent d'avoir de l'or, qui nous permettent d'avoir de la monnaie, des billets de banque et de gagner plein d'argent.
Des points de victoire en tout cas.
C'est ça. Il y a une autre phase, la dernière phase, c'est la phase de construction de la merveille. Et la phase de construction de la merveille, c'est très simple. En fait, on va donner on donne quoi en fait ?
En fait, à la fin de chaque tour, il y a une sorte de merveille qui se construit automatiquement.
Ouais, mais comment tu fais pour poser dessus ? J'ai oublié.
En fait, tu payes. Il faut payer les ressources que tu as mis sur ta tuile de départ.
Et on gagne des points de victoire là-dessus en fonction du nombre de joueurs qui ont participé à la construction.
On sera dans une ligne vaut 10 points et on la partage en fonction du nombre de joueurs qui ont mis ont participé.
Donc vraiment, ça a l'air vachement pas sexy comme ça.
Et c'est super, mais c'est simple.
Et c'est super bien. Un des points forts, c'est que les bâtiments sont personne. C'est-à-dire, tu vas créer une fabrique de je sais pas quoi. En fait, à tous les tours, ça va faire du je sais pas quoi. Et en fait, quand tu as.
Une fabrique de bateaux, quoi.
De bateaux ? Les bateaux, c'est les tiens.
Ah, mais la fabrique.
Oui.
La fabrique, tu l'as fait. N'importe qui peut venir fabriquer son bateau ici.
Ah, oui, d'accord. Ouais, mais il y a des usines qui produisent des matières premières.
Bon, alors prenons la machine à papier.
C'est ça. Voilà. La machine à papier, elle fait du papier.
Il suffit d'amener du bois.
Tu vas avoir du papier, tu vas pouvoir le récupérer.
Et en fait, dans le jeu, on ne contrôle que les transporteurs. Donc les ânes, les camions, les bateaux, il n'y a que ce qui est sur les transporteurs qui est qu'à toi et que personne ne peut te piquer. Sinon tout le reste, si c'est pas sur tes transporteurs, c'est à tout le monde, n'importe qui ou à tout le monde.
Et si tu t'es loupé et que tu fais trop de papiers, disons, et que tu peux pas les mettre sur tes transporteurs, ça va rester par terre
et quelqu'un
va pouvoir aller les chercher.
C'est merveilleux. Et alors, l'interaction, elle peut être là-dedans, déjà. Et elle est donc dans l'ordre. En fait, il y a la définition de l'ordre du tour qui peut changer à chaque phase. Les joueurs peuvent vraiment se battre sur l'ordre du tour. Et également, la possibilité, parce qu'on veut pas ça fait que des fois les joueurs viennent accéder à certaines ressources, notamment les mines d'or à la fin de la partie. Donc, on va pouvoir construire des murs. Mais pour construire des murs, il faut craquer de la pierre. Et pour péter les murs, il faut claquer du bois.
Ouais, c'est ça.
Donc, il va y avoir une petite compétition là-dessus au bout d'un moment. Voilà, il faut savoir être opportuniste en même temps dans le jeu. Donc c'est un jeu qui fait penser à Settlers pour ceux qui ont eu joué, ou vraiment c'est un petit jeu vidéo où on faisait ça, on transformait pas mal de ressources, un peu simplifié. Le côté sympa c'est qu'en plus on crayonne sur la carte les routes que l'on trace au fur et à mesure. En fait on trace que les routes, mais c'est bien sympa. Par contre c'est un jeu long à 4 joueurs, ça peut aller jusqu'à
1h30 par joueur.
Ouais, c'est 1h30 par joueur, ouais, j'allais dire 6h, faut compter 6h à peu près. Il y a une phase de début qui va vite, tout le monde est dans son coin, donc c'est assez simple en fait, parce qu'on peut jouer quasiment en même temps. Il faut que les joueurs connaissent les règles, il n'y a pas de problème. Après, il va y avoir une phase de milieu de partie un petit peu complexe qui va demander aux joueurs, où c'est là où il va y avoir des conflits entre les joueurs. Donc, en fait, on ne peut plus jouer en même temps parce que des fois, il faut attendre qu'un tel qui est censé jouer avant moi passe, parce que savoir ce qu'il va prendre, pas prendre en ressources, qu'il va me laisser pour que je puisse jouer et ainsi de suite. Donc là, on commence à ramer un peu. Là, c'est un peu le problème du jeu. D'autant que plus on est expérimenté, plus on va vouloir aller chercher des scénarios à interaction, donc un peu plus long. Et puis la fin de partie, par contre, paradoxalement, à nouveau, ça se réaccélère sur la fin parce que de toute façon, c'est fait, les principaux conflits ont été résolus, les joueurs ont leur position globalement et on finalise les points. Après, en fait, les joueurs vont tenter d'accélérer la partie en construisant très vite à la merveille.
Donc, un jeu atypique, j'ai pas en tête d'autres exemples, à part Logistico peut-être, mais.
Ouais, mais Logistico, ça dépasse cet aspect-là.
Et un truc un peu improbable, un truc assez incroyable qui demande vraiment de l'implication, parce que tu fais ta première partie, t'as passé 6 heures, t'as fait ta première partie, donc il faut en refaire une autre parce que t'as les bases et que.
Et toutes les cartes sont différentes, t'es permis de vraiment voir le jeu différemment. Il y a un autre aspect qu'on n'a l'air de rien, c'est que sur chaque tuyau on peut construire qu'un bâtiment et ça demande à gérer l'espace. En début de partie, il faut déjà avoir une vision. Alors, la première partie, vous êtes mort, mais vous aurez une carte facile. Mais ensuite, il faut vraiment avoir une vision de comment est-ce que je vais me développer, quel bâtiment je vais mettre où rapidement. Ça, c'est vraiment les premières questions à se poser dès le début de la partie. Quitte à après avoir des alliances, des fois temporaires, malheureusement, avec d'autres joueurs pour construire des bâtiments.
Moi, je me suis fâché avec quelqu'un.
Ah, oui, parce qu'en général, ça finit avec des murs, des machins. Et ça finit par se fâcher. Ouais. Pour peu que tu lâches ton âne au milieu de l'autre, et là, c'est bordel.
Et puis il y a etc. qui est sorti, etc. C'est l'extension.
Ouais, mais là,
ça rajoute l'électricité, ça rajoute alors le management. Alors,
MBA, ouais. C'est le bullshit, le B, c'est je sais plus.
Master c'est Management Bullshit Academy.
Voilà.
L'art, et puis c'est sûr.
Il y a les bombes, tu peux péter les bombes.
Ouais, c'est ça.
Il y a l'électricité, il y a les trains.
Les trains, les avions, les villes. Enfin, tout un tas de trucs.
Ouais, il faut déjà que vous maîtrisiez Roads & Boats pour aller à l'extension, mais maintenant, ne pas acheter l'extension maintenant, vous exposez au risque de ne pas la trouver quand vous en aurez besoin. Parce que vous en aurez forcément besoin.
Voilà.
Un très bon jeu.
Un grand ancien aussi.
Ouais, mais qui partira jamais de ma ludothèque. Quoi.
Bah non.
Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai toujours hésité à mettre le budget et finalement, je le regrette pas. Quoi. C'est vraiment un jeu exceptionnel.
Tu rejoues ?
Bah oui, j'ai joué pendant les vacances de Noël.
Ah, c'est ce qu'on s'était dit, t'as fait les deux parties ?
J'ai fait une partie, mais sur deux soirs, ouais.
T'as fait une partie sur deux soirs ?
Ah ouais, parce qu'on l'a coupé, on a fait 3h et 3h. On le met sur une planche, en fait, on met sur une grande planche.
Ouais.
Bon, au moment de déplacer la planche, on prend des photos au cas où ça bouge, ouais. Et on déplace la planche sur une autre table.
Alors tu vois, là-bas, il y a une grande planche, on va faire la même chose pour Mice and Mystics.
Ouais, bah voilà. Non, mais typiquement... Hein. Ouais. Voilà. Et non, c'est toujours aussi agréable. Quoi. À part ce côté, comme je dis, au bout d'un moment, il y a trop l'interaction, elle peut vraiment pénaliser le côté agréable du jeu. Parce qu'en fait, l'air de rien, on pourrait apprécier juste jouer chacun dans son coin. On peut jouer les scénarios en solo, mais on perd l'interaction. Bah mais ouais. L'interaction, elle ralentit tellement le rythme du jeu que des fois, tu te demandes si c'est vraiment bien.
Moi, j'ai fait une partie à 3 qui était assez incroyable, où en fait on était deux à se courir après, enfin quelqu'un me courait après, je faisais des murs pour l'empêcher de venir, et il me cassait mes murs, et en fait c'est le troisième qui a gagné.
Ça c'est le problème des jeux à 3 quand il y a deux
qui
cherchent.
Non mais c'était n'importe quoi de toute façon. Voilà, donc Rosenboats, c'est paru chez Splatter, 80€, peut-être 35€ pour etc. si vous le trouvez. Et il faut y aller, n'hésitez pas.
Je sais pas si on parlera des autres jeux de Splatter un jour, mais si Indonésie a réédité, je vous en dirai tout le bien que j'en pense.
Oh, on pourra.
C'est un des meilleurs jeux à
4. Non, mais on va peut-être faire au moins le triptyque Rods and Boats, Antiquity, Indonésie.
Pas de problème.
C'est pour votre culture personnelle, il faut vraiment les.
Vous connaissiez les vrais.
Ouais, c'est clair. Dernier jeu, Gueule Noire. Là, il y a Florent qui est en train de s'écrouler sur son
siège. Il est en train de s'endormir, on l'entend plus.
Ouais.
Avec le sourire.
Mais avec le sourire.
Ça... Quand est-ce que tu proposes un jeu comme Rosenboot?
Bah écoute, le dessin est assez.
Là, contrairement à toi, t'es pas obligé de produire localement.
Merde, j'ai oublié de parler du dessin.
Ah ouais, non, il faut parler du dessin.
C'est incroyable, c'est super joli. C'est très moderne comme, comme dessin.
C'est une aquarelle?
Non, c'est incroyable en tout cas.
C'est plutôt crayonné, style naïf.
Ouais.
Alors, ouais, mais on retrouve des oies qui suivent l'âne. Une thématique du jeu, puisque les oies elles suivent n'importe quel transporteur qui passe sur leur tuile. Et donc, tu peux aller facilement piquer les oies des autres.
Avec les mines là-bas.
Et les mines au fond, ouais, tout y est.
Et puis rien, surtout rien, tu vois. Bref, vous regarderez les visuels sur BGG ou sur le site. C'est un jeu d'un autre âge.
Etc., c'est pire.
Ouais.
Voilà, Gueule Noire.
Que vous êtes moqueur. Bon, alors Gueule Noire. Alors après, vous a présenté un vrai jeu pour gamer, un vrai quoi. Un truc
alors autant Rotten Boat est très clair la boîte.
Dans ça Gueule Noire. Gueule Noire.
Très noir.
Alors Gueule Noire, c'est noir parce que à la base, c'est un jeu qui est basé sur la thématique, c'est la thématique des mines en fait. Et donc les Gueules Noires, c'était le nom des.
Ah bon.
On dit les mineurs, les miniers.
Ouais.
Les Gueules Noires.
Non, ouais. Les mineurs.
Voilà, c'est comme ça que Gigami qui a choisi de traduire le jeu, puisqu'à la base, c'est un jeu paru chez Egert.
C'était Schwarz.
C'était Glückauf, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. Non, ça avait rien à voir. Ça s'appelait pas du tout Gueules Noires dans la traduction. Il est sorti à Essen l'année dernière. Il est sorti en même temps en français. Quand on vous disait en 2013, ça y est, les jeux sortent maintenant en multilingue en même temps. Au niveau mondial, c'est quand même assez fort. Voilà, en voilà un exemple. C'est un jeu de Wolfgang Kramer et Michael Kiesling. Donc un duo qu'on connaît bien pour certains, qui ont eu fait dans le passé des jeux comme Tikal, Java, Mexica.
Et c'était les 3K, c'était Kramer, Kiesling et
Knizia.
Ah bon?
Ou alors okay. C'était ouais.
Non,
ouais, sinon c'était Klaus Tuber.
Non,
le okay, K de d'accord. Klaus. Mais je pas là, non, mais ils ont jamais fait les 3K pour faire un même jeu. Après on pourra voir la boîte. C'est un jeu de familial, hein, vraiment, il est affiché pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans. Pour des enfants rodés au jeu, on peut même descendre à 8 ans sans aucune difficulté. Le concept du jeu est facile, la stratégie un petit peu moins, mais à 8 ans, les enfants s'adapteront après quelques défaites. Non, mais enfin, je veux dire, ils n'auront pas forcément. Mais en tout cas, ils n'auront aucun mal à savoir quoi faire dans le jeu. Et ça, c'est important. Les principales mécaniques du jeu, c'est de la pose d'ouvrier. C'est assez basique, hein. Bon, la pose d'ouvrier, ok. Sauf que, une pose d'ouvrier, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous parler de Bruxelles, ça peut être très violent. C'est-à-dire que, je sais pas, on prend. Il y a des jeux, la pose d'ouvrier, où on a parlé de Russian Railroads. Quand un joueur il vous prend l'endroit où vous voulez vous mettre, bah, c'est trop tard, c'est foutu, il faudra attendre le tour prochain, et ça peut être le drame.
Agricola,
ouais, par exemple. Mais c'est moins. Agricola, c'est... Enfin, si, ça peut faire mal quand même.
Bah oui, oui.
Quand
tu dois bouffer et que tu peux pas bouffer.
Alors ici, c'est un mécanisme que j'ai jamais vu. Je sais pas si c'est une nouveauté ou pas. En fait, si moi, je me suis déjà placé sur une case, j'y ai placé. En fait, on a des ouvriers qu'on va placer. En fonction du joueur, par exemple, j'en ai 15 à 4, 3 joueurs, je crois. Je prends un ouvrier et je le place sur l'action que je veux faire. S'il y a déjà un ouvrier, eh ben, je dois en mettre 2. Je vais en mettre un de plus, en fait, etc. Donc, il y a un système surenchère. Le jeu se joue qu'en 3 phases, et à la fin de chaque phase, oui. Il va y avoir des décomptes.
Oui.
Et le truc, c'est qu'il va falloir optimiser au maximum les 15 ouvriers qu'on t'a donné pour la phase. Donc, c'est sûr que tu peux toujours aller le placer. Mais maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 3 ouvriers sur telle action? Est-ce que peut-être que finalement, tu ne peux pas utiliser autrement tes ouvriers?
Keyflower.
Ouais, il y a le système un petit peu.
C'est un enchère, la Keyflower, où quoi, tu peux surenchérir.
Mais Keyflower, c'est de l'enchère. Là, c'est pas de l'enchère. Tu bénéficies quand même de. Ah, après, dans Keyflower, quand tu vas le placer sur les tuiles, ouais, tu peux aller te mettre en plus, effectivement. Ouais. Mais t'as en plus la notion de couleur. Là, c'est quand même
non, simplifié. C'est l'idée de surenchérir et de pouvoir quand même le faire et pas être bloqué tout de suite.
Voilà.
Et tu veux dire que quand tu te places avec un autre joueur, les deux bénéficient de la case?
Lui, il l'a bénéficié quand il s'y est placé.
Ah, et toi, tu. D'accord.
En fait, okay. Tu la résous l'action dès que tu te
places. Donc, c'est pas vraiment comme dans Keyflower.
Non, c'est pour ça. Et c'est ce qui va rendre le jeu beaucoup plus accessible à des enfants. Après, le reste du jeu, sur la thématique, c'est assez basique, c'est-à-dire qu'en gros, on va avoir des commandes qu'il va falloir réussir. Les commandes, en gros, c'est livrer du charbon. Alors, je ne suis pas expert en charbon, il y a 4 niveaux de charbon. Du moins bonne qualité, on va dire, jusqu'à du bonne qualité, donc c'est jaune.
De la bonne, c'est de la bonne.
Du jaune, bah, en fait, le jaune, on pourrait croire que c'est de l'or, en fait, c'est le moins bon charbon, paradoxalement. Jusqu'au noir qui est de la bonne, ouais. C'est de la bonne coke. Et tu. Voilà, et donc tu
du pourrais. Du bon coke.
Du bon coke, ouais. Et pour réaliser les commandes, eh ben, il va falloir donc aller extraire le charbon. Comment on fait? Alors, chaque joueur a une mine devant soi, avec 4 niveaux de. Avec 4 niveaux de. Justement, différentes qualités de charbon.
Ouais, c'est classe, ça.
Ouais, et en fait, j'ai pas réussi à sortir. Normalement, t'as ça dans la. En fait, les mines, elles sont bien faites. T'as une sorte d'insert au milieu pour présenter là où va passer l'ascenseur. Et puis, t'as un petit jeton ascenseur que tu poses par-dessus. Parce qu'en fait, quand tu vas vouloir faire descendre ton ascenseur dans la mine pour aller chercher du charbon, tu le fais coulisser sur ta. Parce que les cartons sont pas tout à fait à la même dimension.
C'est-à-dire, tu le mets comme ça et tu le déplaces comme ça?
Non, non.
Enfin.
Que ça.
Compliqué ce jeu, hein.
Ouais, c'est en fait c'est juste pour les enfants de 8-10 ans et pas pour les grands enfants. On est en 95. Alors.
17.
97 maintenant.
17.
Ah ouais.
T'as
95 ou 17? Non, t'es 95. Marrant, t'es majeur maintenant. T'as droit à la bière. Voilà, tu le mets comme ça et en fait là il tient. Et du coup tu peux faire descendre ton ascenseur. Magie.
Bon, c'est. Et fais voir sans, ça marche ou pas?
Bah ouais, mais c'est moins beau.
Ouais, c'est ça.
C'est pas beau, c'est tout. Enfin, monsieur, soyez dans le thème un peu. Bref, on s'égare.
Ok, donc le plateau individuel permet de faire coulisser l'ascenseur. Le plateau individuel, c'est
tu gères ta mine, voilà. Donc dans lequel tu vas. Alors, mais par contre, pour que ta mine elle ait du charbon, il va falloir que tu ailles placer des ouvriers pour aller chercher des nouveaux wagonnets. Puis ça va te permettre en même temps d'agrandir tes galeries. Il y a une petite nuance en fait, t'as des galeries à droite et à gauche ton plateau. À droite, elles sont pas éclairées, à gauche, elles sont éclairées. En fait, il va falloir que tu auras un malus en fin de partie si t'as pas équilibré. Il faut que tu équipes tes galeries à peu près entre les deux
et
côtés.
Est-ce qu'il y a des coups de grisou?
Non, il n'y a rien de tout ça.
Il n'y a pas des cartes coup de grisou.
On reste sur un jeu. Je me suis posé la question de savoir si c'était parti sur le thème ou bien s'ils avaient tout plaqué. Je pense qu'ils sont quand même partis du thème en partie.
Bah, et s'il n'y a pas de carte coup de grisou, désolé.
Non, bah, on reste sur un jeu familial. Voilà, donc on peut aller envoyer ses ouvriers pour aller choper les wagons, enfin agrandir ses galeries. On va avoir des actions pour justement aller chercher via l'ascenseur, etc., les minerais dans la mine pour les remonter en surface et pour les déposer sur les commandes. On a aussi une petite notion d'argent, parce qu'en fait, pour aller chercher qui sert juste pour aller acheter les wagons et étendre les galeries. Et ça, pour le faire, en fait, il y a de la banque, donc on y va. On pose un petit ouvrier, puis on récupère 6 francs. Ah, c'est des francs. On récupère 6 francs. Voilà, les enfants, ma fille, elle comprend pas ce que c'est que des francs. Elle a 8 ans.
Et, ah, c'est normal.
Non, mais c'est pour dire que. Voilà, ça reste à des jeux plus.
Et moi qui parlais tout à l'heure d'anciens francs, enfin, de francs, même pas d'anciens francs.
Ouais, voilà. Non, mais c'est marrant parce qu'on manipule des francs, mais ils nous disent quoi. Et puis, une fois qu'on a fini ces commandes, on va pouvoir les réaliser en allant. En fait, les commandes, elles sont réparties. Il y a différents types de véhicules pour les transporter. Et il suffit d'aller dessus, on peut livrer automatiquement toutes ces commandes. Le truc, c'est que du coup, il n'y a pas beaucoup de choix qu'on peut faire, c'est assez linéaire, on va dire. Il faut juste choisir les commandes qu'on va réaliser, aller chercher les bons wagons et puis aller les récupérer.
Bah, où est l'intérêt?
Il y a quand même l'interaction dans les poses d'ouvriers déjà, il va falloir toujours pareil aller se placer parce qu'il faut économiser ces ouvriers, l'air de rien, même si tu peux y retourner là où quelqu'un s'est mis. S'il faut mettre 4 ouvriers, ça va te coûter très cher, donc tu vas éviter. Et ensuite, il y a dans la réalisation des commandes, par exemple. À quel moment est-ce que tu vas les livrer? Par exemple, tu as plusieurs commandes avec les camions. En gros, c'est des véhicules d'époque, hein, mais en gros, tu as des petits camions pour livrer les commandes. Si tu en as 2 ou 3, on va dire que tu en as 3, mais tu en as 2 réalisées, tu en as une, tu n'as pas encore tout à fait fini, tu n'as pas livré tout le charbon correctement. Tu as le choix, tu peux dire, ok, bah, quitte à payer une action, autant que j'attende que ma troisième elle soit finie avant de le faire. Mais peut-être que ce ne sera pas dans cette manche. Or, à la fin de la manche, il y a un décompte. Il y a des décomptes à la fin de chaque manche.
Et tu bénéficieras pas de ce wagon-là.
Et tu bénéficieras pas des bonus, voilà. Et parce que là, par contre, à la fin de la première manche, on va regarder que sur les mines, sur les commandes réalisées, sur les types de charbon qu'on a livrés. À partir de la deuxième manche, on va ajouter en plus, en fonction des types de véhicules qu'on a utilisés. Et sur la troisième manche, on va regarder celui qui a fait les plus grandes galeries.
Et ça, les gamins, tout le reste, je veux bien, mais ça va, ça
Ils ont du mal à voir ça,
en
sachant que les commandes, elles sont cachées. Mais ça, je sais pourquoi. En fait, je disais, c'est con, il faudrait qu'on soit toujours affiché. Ouais, mais ça a l'avantage que du coup, t'es pas en train de calculer, alors lui, il va faire machin, etc., qui ralentirait péniblement le jeu.
Ouais.
Mais les gamins, ils sont capables de comprendre qu'il faut réussir ses commandes, etc. Et l'air de rien, ils le font tout seul, hein. Il n'y a pas besoin de les gérer. La première partie, t'accompagne un peu, et après, c'est bon. Et c'est, pour moi, c'est très bien pour les mettre en avant vers la suite, quoi. C'est un jeu. On parlait, on a
un
fait
gateway
un dossier,
game.
Ouais, on a fait un gateway game. C'est un dossier gateway game. Mais là, c'est pas un gateway dans ce sens-là. C'est-à-dire que les enfants sont déjà rodés au jeu, mais on passe déjà un cran. On passe une étape avant d'aller encore vers quelque chose d'autre. Je l'aurais pas acheté si c'était pour jouer entre joueurs. Mais par contre, pour jouer avec les enfants, c'est impeccable.
Et tu savais que c'était un jeu comme ça, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, je l'avais vu à Essen parce que c'était un jeu de pause d'ouvrier, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Puis après, j'avais vu, ah bah non, c'est trop simple. Et finalement, il y a plein de très bons retours sur Internet sur ce jeu. Et je me suis dit, bah alors, j'ai regardé et j'ai dit, bah parfait, il colle pile poil pour jouer en famille. Donc il est venu là. Et pour se donner une idée, par contre, il est long. Hein, il faut quand même compter 20 bonnes minutes par manche avec 4 joueurs. Quand on maîtrise un peu, enfin,
combien de manches? 3
Ouais, 3 manches. Donc il faut compter 1 heure, 1 heure et demie.
Bah, c'est pas loin, hein. une heure de jeu. C'est
avec des enfants de 8-10 ans.
Mais oui, si tu veux leur faire
passer
un cap.
Bon. Une heure, c'est quand tu. Ouais, mais c'est 1 heure, 1 heure et demie, bien sûr. Mais.
Tu les attaches à la chaise avec du scotch.
Ça marche bien.
Ouais. Juste le poignet droit pour pouvoir.
Ouais, il faut quand même qu'ils
posent les ouvriers.
Non, mais ils me disent avec les yeux. On se comprend au bout d'un moment. Ouais, juste dans le regard. Non, mais ouais, non, mais il faut le savoir. C'est-à-dire que c'est pas non plus le jeu que nous on a pour tradition maintenant. Souvent le soir après manger, on sort un jeu. En
mais
fonction du temps qui reste,
c'est
voilà, gueule noire, tu le sors pas facilement comme ça le soir de semaine. Quoi. Mais les enfants ont beaucoup aimé. Il n'y a pas eu de problème après la première partie.
Gueule noire, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans. Sorti chez Gigamic.
8 ans joueurs, sinon 10 ans.
8 ans joueurs, sinon 10 ans. J'aime bien répéter quand tu dis.
Ah ouais, c'est beau. De
Wolfgang Kramer
et
Kiesling.
Bien. Et qui est vendu.
Bah, avec Kramer et Kiesling, c'est quand même un duo. C'est juste un peu la truffe. C'est peut-être pas une bonne.
Ils n'ont pas toujours réussi tout, mais. Kavoum, ouais. Par exemple, qu'ils avaient fait sur le thème des mines,
c'était
beaucoup
très
plus
bien.
C'est très bien, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est pas du tout accessible pour les enfants. C'est super calculatoire. Enfin, ça...
ouais.
Mais c'était très bien aussi. Mais c'était pas le plus grand public qu'ils aient fait.
Ouais, mais on s'en fout. Ils ont fait Tical, ils ont fait.
Ah non, mais voilà, c'est une bonne marque de fabrique. Et donc, il est vendu chez Philibert à 33 euros. Il a déjà 3 avis 5 étoiles.
Ok. Bon, bah écoutez. Voilà.
Hein, il est. Grand temps de se coucher.
Il est 1h46.
Je t'ai menti, Florent Chaïk, à 1h30, tu serais rentré chez toi.
Ouais.
Ouais.
Ce sera 2h30. Et alors, moi, je ne sais pas.
Je suis désolé. Merci beaucoup, Florent, de nous avoir accompagnés.
Et surtout,
merci
à vous, c'était chouette.
Bah, écoute, on verra quand ça sera monté. Parce qu'en général, une fois qu'on a fait tout ça, on est tellement fatigué qu'on vomit un peu du podcast. Puis après, on réécoute et ça fait du bien.
Et puis, ça sort un mois après.
C'est ça. Non, ça sera en ligne d'ici une quinzaine de jours. On est le 23, fin de la première semaine de février.
On va changer le truc, on va mettre une roadmap différente.
Non, mais là, on parle encore de la saison 5.
Non, mais sans parler de la saison 5, on a dit qu'on ne divulguait pas. Non, mais la saison 4, je vais quand même faire en sorte que le billet soit prêt.
Pas le 20, de toute façon, on enregistre le 20 février prochain.
Oui.
Donc, ça sera avant le 20 février prochain.
Non, mais on va s'arranger pendant 2 semaines.
En plus, comme il n'y a pas de. En fait, il y a juste. Pas de news, il y a que du Kickstarter dans cet épisode.
Ouais, alors on l'a pas dit, mais c'est parce qu'on est en période creuse là. Janvier, c'est pas la période la plus.
Donc on peut.
Il va y avoir Nuremberg, tout ça après, mais pour l'instant. Et puis on a sauté le dossier 2014.
On vous rappelle l'adresse du site podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr. Un petit merci à notre développeur qui l'a tout relooké, il est super beau maintenant. Donc allez-y, vous y trouverez plein d'infos. Le SoundCloud, vous tapez SoundCloud et proxy jeu, vous trouverez. On a aussi un Facebook, un petit like, un Twitter. On aime bien interagir avec vous par Twitter. Et puis notez-nous sur iTunes, mettez des commentaires. Parlez-nous autour de vous, c'est le plus important. En fait,
envoyez-nous vos chroniques.
Les gens nous écoutent. Et puis, n'hésitez pas si vous avez envie de dire quelque chose que vous pensez intéressant. Et puis, si c'est pas intéressant, envoyez-nous. Et puis, on vous dira que c'est pas intéressant. ça sera coupé.
Il vaut mieux.
Le mois prochain, l'épisode sera consacré à. On sait pas.
Bah, si, moi je proposais l'édition papier. Parce qu'on aura la chance d'avoir Damien de Plateau. Magazine.
Et c'est un pseudo, Damien de Plateau?
Damien de Plateau, non, c'est un titre de noblesse.
D'accord. Non.
C'est Damien, je sais pas.
Il y a un jeu de mots aussi, plateau, au plat.
Je sais pas. Ouais, il faut en verlan. Non, et Plateau ouais. Magazine, donc magazine de papier de jeux de société, seul survivant.
Ça existe encore?
Eh oui. Ah, bravo.
J'ai reçu le mien hier en tout cas. Bon. Donc ça doit exister encore.
Ouais, ça existe encore, mais après avoir fait un passage, je peux dire.
On verra peut-être pour des goodies.
Ah oui,
on
en
a parlé, mais. Reste à l'écoute. On posera peut-être quelque chose par rapport à cet éditeur. Et puis en attendant, jouez bien.